Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1233, en ce samedi 13 avril. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro, chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Et dans ce 1233e numéro, on va commencer tout à l'heure par le disque du mois de Mike Zito, qui s'appelle toujours Life is Hard, avec un extrait Have a Talk with God. Il a un truc à dire à Dieu, et oui, parce que son album est dédié à la mémoire de son épouse tout récemment disparue. Et puis c'est Axel Bauer qui est l'invité de My Rockers numéro 44, je vous en dirai plus dans quelques minutes. Voici Mike Zito immédiatement. C'était Mike Zito avec Have a Talk with God sur l'album Life is Hard chez Gulf Coast Records. L'invité de My Rockers numéro 44 s'appelle Axel Bauer. Et Axel Bauer qui est l'invité de My Rockers numéro 44. Son parcours est unique. Nous découvrirons la véritable passion qu'il voue pour la musique, d'abord grâce à une imprégnation précoce. Passion pour la guitare aussi, bien sûr, instrument qu'il maîtrise très jeune au service des autres, mais surtout d'une carrière personnelle qu'il mène depuis plus de 4 décennies. Le jazz dès l'enfance, le rock révélé par un concert des Who avant ses 13 ans, la présence du père, la voix de Radio Londres, une fulgurance de chaque instant dans la composition. Axel Bauer a partagé la scène avec de nombreuses stars, dont Joe Cocker, collaboré avec Johnny Hallyday. Il a créé la Guilde des artistes de la musique, croisé le destin de multiples artistes dont Roger Daltrey. Il continue de tracer sa route parsemée de succès comme Cargo, Éteint la lumière, À ma place avec Zazie ou plus récemment Radio Londres en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été fait chevalier des arts et lettres et avec à son actif 9 albums sortis dont plusieurs disques d'or et le 10e en préparation, l'actualité d'Axel Bauer fourmille de projets, rencontres pleines d'anecdotes passionnantes avec un bel artiste, sensible, cultivé, déterminé, inspiré, qui a choisi pour l'occasion un titre des Who, emblématique de ses années d'initiation. Axel Bauer, bonjour, je suis ravi de te tendre le micro dans My Rockers, la rubrique rock de Sweet Home Chicago. Ça va Axel ?
Ça va et toi ?
Ben écoute, très très bien. Dans cette interview, on va évoquer ton parcours, ton actualité, mais d'abord tes influences. Et puis, ce qui est intéressant dans cette rubrique, c'est ta mise à la musique. Alors, en guise de résumé, tu es né le 7 avril 1961 à Paris. Ton grand-père officiait déjà à l'harmonium à l'église, ta grand-mère jouait du piano, ta tante jouait de la musique classique à l'international. Et puis, surtout ton père, qui se nomme Frank Bauer, entre autres le célèbre speaker de Radio Londres, l'homme qui disait « les Français parlent au français », tu en parles dans une de tes dernières chansons.
Ici Radio Londres, on est armé pour faire de Londres. Ici Radio Londres, à d'autres temps on était plus résistants.
Il a été batteur de Django Reinhardt, ami de Stéphane Grappelli, Louis Armstrong notamment. Il semble que ton père soit fortement impliqué dans cette passion que tu as, Axel, pour la musique, pour les musiques en fait, ce qui t'a emporté très jeune. Cette anecdote, assis sur les genoux d'Oscar Peterson, une sacrée initiation, non déjà ? Le jazz, le blues tout d'abord, je crois, non ?
Oui, c'est tout à fait exact. Je suis né dans une famille de musiciens, où en tout cas la musique comptait beaucoup. Il y avait des musiciens professionnels et puis des musiciens amateurs, comme tu l'as cité, mon grand-père qui jouait de l'harmonium à l'église. Et en fait, dans la famille, on avait coutume de dire que si on voulait écouter de la musique, il fallait savoir en faire.
Ah oui.
Ce qui était le cas des gens qui étaient nés avant même la guerre, hein, mais des grands-parents qui étaient nés presque au siècle d'avant, donc ils n'avaient pas été éduqué avec la radio, même avec le téléphone et tout ça, donc c'est un autre monde, et donc ils savaient tous jouer de la musique, lire une partition et tout ça. Et mon père, qui était fan de sa musique, hein, le jazz, puisqu'il en a été l'un des pionniers précurseurs, un peu en ayant des contacts amicaux avec Louis Armstrong, des gens comme ça, et en jouant de la batterie avec Django Reinhardt et avec Stéphane Grappelli, tout ça. Donc, bien évidemment, je suis né dans cette ambiance musicale où finalement je me rends compte que j'ai écouté plus de jazz, de musique classique, et jusqu'à mes 12 ans, on va dire, 11-12 ans, j'écoutais quasiment que ça. J'écoutais pas de musique chantée, quoi.
Oui, et voilà. Et après, il y a demi-siècle déjà, le concert des Who. Je crois savoir que c'était le 10 février 1974, au moment où tu avais à peine 13 ans, ton père te ramène, c'est ça ?
Exact. C'était en 1974, je ne savais pas que c'était le 10 février.
Alors, j'ai vérifié juste, j'ai l'impression que c'était même carrément à l'inauguration du parc des expositions que les Who avaient été invités, parce que je n'ai pas retrouvé d'autres concerts des Who cette année-là à Paris. C'était un élément déclencheur pour toi. Quels sont tes souvenirs de ce concert, en fait ?
Ah, le souvenir, c'est d'abord que mon père a amené à la maison le disque Tommy, je crois. Ouais. Et ensuite, que j'ai écouté jusqu'à l'usier, jusqu'à la moelle, j'ai envie de dire. Et ensuite, il a ramené le disque Quadrophenia. c'était deux doubles albums et deux disques qu'on appelait opéra rock, en fait. Oui. Donc il y avait une histoire qui liait des personnages, etc. Et j'étais fasciné par cette musique. On a tendance à penser que les Who étaient un groupe très sauvage, ce qu'ils étaient, parce qu'on se rappelle un peu d'images comme ça, de moulinets de guitare, de Pete Townshend, de Keith Moon qui casse ta batterie, donc d'un groupe extrêmement sauvage. Mais il faut aussi comprendre que les Who est un groupe identitaire, c'est-à-dire les paroles des chansons me touchaient, puisque elles étaient que des paroles qui vous construisent en réalité, qui vont puiser dans les questionnements spirituels qu'on peut avoir, et surtout quand on est un jeune adolescent qui se construit, Who is the real me, et même le the Who, les qui, voilà.
Identitaire et générationnel également, I'm free, my generation won't get full again.
Exactement.
Voilà,
c'est ça. Et donc, un jour, mon père est arrivé avec les billets pour aller voir le concert des Who. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et effectivement, j'étais complètement soufflé, complètement emporté par ce déluge à la fois de notes, de puissance, la voix de Roger Daltrey et tout ce qui se dégageait de ce groupe de quatre personnes comme ça. On avait envie de faire partie de ce groupe et on avait envie de défendre cette idée aussi. So we won't get fooled again.
On va en parler après, Axel Bauer, parce que tu as rencontré Roger Daltrey alors que ta carrière était déjà démarrée. Il y a une belle anecdote qu'on va pouvoir évoquer tout à l'heure. Mais je voulais aussi qu'on parle de tes influences majeures en tant que guitariste. Ça va plutôt vers des guitaristes de quel style ? Tu évoques souvent Pete Townshend, on vient d'en parler. Mais il y a également Johnny Winter ou Jimi Hendrix qui sont des gens importants pour toi, je crois.
Ce sont des gens qui sont incontournables dès l'instant qu'on commence à rentrer dans l'apprentissage de la guitare rock de cette époque-là.
Oui.
Johnny Winter était très connu, le Captured Live était absolument incontournable. Il n'était pas le seul, Jimi Hendrix. J'ai entendu pour la première fois Jimi Hendrix à l'Action Christine, qui est un petit cinéma qui diffusait le film Easy Rider, qui est un film un peu mythique de cette période. Et il y a cette séquence où, je crois que c'est Henry Fonda et Dennis Hopper qui rentrent en moto dans une ville, et on entend If Six Was Nine de Hendrix. Derrière, et c'est là que j'ai été interpellé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hallucinant, et il faut absolument que j'écoute. C'est comme ça que je suis rentré presque en religion à ce moment-là, en écoutant Hendrix, parce que c'était absolument époustouflant, quoi.
Et puis après, c'était la passion de la guitare. Mais je crois savoir que tu as commencé par le piano, puis tu voulais jouer de la batterie. Est-ce que tu as finalement poursuivi le piano ou la batterie depuis, ou tu es vraiment resté pur guitariste, Axel?
Non, en réalité, le piano, c'était parce qu'il y a déjà, il y avait le piano de ma tante, qui était une grande concertiste de piano qui jouait un peu, effectivement, tu l'as dit, elle a même joué à Carnegie Hall plusieurs fois, donc elle était mondialement connue, et elle laissait son piano à Paris puisqu'elle habitait à New York, elle était naturalisée américaine. Donc je tapotais sur le piano, mais on m'a mis au piano quand j'avais 6 ans. Et j'aimais pas beaucoup ça parce que j'entendais des musiciens de jazz qui venaient à la maison et qui jouaient cette musique. Et pour l'apprentissage du piano, moi, on me faisait travailler des timoniers de Mozart, et je comprenais pas c'était pas ce que j'avais envie d'apprendre,
oui,
au piano.
Comprends.
Alors,
ouais.
J'ai pas eu la passion de faire le lien entre ces petits menuets et cette rythmique que j'aimais pas beaucoup, et les trucs fantastiques que j'entendais de jazz à la maison. Et puis ensuite, comme tous les mômes, je pense qu'on passe tous par une période où on a envie de taper sur des trucs, donc avec des baguettes, c'était facile de taper sur les coussins et de faire semblant de jouer de la batterie en écoutant les Who. Et puis après, mes parents m'ont mis dans une pension parce qu'ils divorçaient, ils voulaient un peu m'éloigner les divorces n'étaient pas faciles dans ces moments-là, c'était vraiment même presque des carnages d'ailleurs. Et donc, ils voulaient éloigner leurs enfants, donc ils m'ont mis dans une pension. Et là, c'était un peu violent pour moi, j'avoue, et j'ai voulu me raccrocher à quelque chose, et j'ai demandé à ma mère si elle voulait bien m'acheter un instrument. Alors elle m'a acheté un truc à 120 francs à l'époque, je crois, aux prises uniques. Une guitare dont les cordes étaient tellement espacées du manche que c'était quasi injouable.
Injouable, oui.
Mais elle m'a dit, si tu arrives à tirer un son de ce truc-là, je t'achète une guitare, une vraie guitare dans 3 mois. Et elle n'a pas attendu, puis je crois que j'étais très motivé. Et finalement, elle m'a payé une Ibanez copie d'or, qui était une meilleure guitare, qui restait longtemps la guitare avec laquelle j'apprenais. Quoi.
Est-ce que tu peux nous parler justement de tes premiers groupes, comme les Nightbirds, je crois que vous repreniez AC/DC ou les Stooges? T'étais ado, tu partageais ton temps entre le dessin et la musique, hein, je crois. Il y avait vraiment deux passions, toi.
Ouais, je suis plus né d'ailleurs avec un don d'ailleurs pour le dessin. Enfin, j'avais une passion et tout le monde aimait mes dessins. Et donc, on me poussait à dessiner de plus en plus jusqu'à effectivement postuler pour faire les Beaux-Arts. Et en tout cas, j'ai passé un an après le bac dans une école préparatoire pour le concours des Beaux-Arts. Que j'ai réussi, mais je n'y ai pas été. J'ai pas été parce que la passion de la musique avait pris le dessus sur celle du dessin. Et je commençais à faire des petites séances à 18 ans. J'étais pas trop mauvais, donc on me proposait quelques trucs et je me voyais plus me développer dans la musique que dans le dessin. Donc voilà.
Et là, la véritable passion de guitare, ça fait. Tu en as possédé combien des guitares?
Ça va peut-être te surprendre, mais j'en ai pas énormément. Enfin, j'en ai plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça coûtait assez cher une guitare finalement. À l'achat, on n'avait pas non plus un choix immense comme on a aujourd'hui. Et il n'y avait pas de bonne guitare à 400 €, hein, comme on peut trouver aujourd'hui. Je vois mon fils, il doit avoir. J'ai dû lui payer 8 ou 9 guitares depuis qu'il a commencé, alors que moi je n'ai eu qu'une seule guitare, quasiment, ou une guitare sèche et une guitare électrique, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai quasiment tout fait avec ma Strat sérielle, jusqu'à ce que je achète une Les Paul Junior, je crois, en 90.
Mais justement, avant d'avoir cette vieille Strat, tu avais une Les Paul toute neuve, tu l'as échangée contre la sérielle.
Ouais.
C'était à Dakar, ça, hein.
Oui, j'avais dans l'idée d'avoir une Les Paul, parce que j'étais fan de Led Zepp et puis d'autres trucs. Donc je voulais ce son-là, un peu épais comme ça, et puis la Les Paul semble être la gratte ultime pour faire du rock. Et quand elle est arrivée, cette Les Paul, j'ai trouvé extrêmement lourde,
mais oui.
Comme le sont parfois les Les Paul, et pas forcément très pratique, et c'est pas forcément le son que j'avais en tête à ce moment-là. Et je suis parti à Dakar, et dans un hôtel, j'ai rencontré un guitariste, j'avais ma Les Paul avec moi, et il jouait dans le groupe de l'hôtel, il jouait très bien d'ailleurs, ce garçon, et on a joué ensemble, et puis au bout d'un moment, il m'a dit, est-ce que je peux essayer ta guitare? Je lui ai dit, est-ce que je peux essayer la tienne? et chacun est reparti de son côté avec la guitare. Moi, quand je l'ai entendu jouer cette Strat, je me suis dit, c'est vrai. En fait, c'est ce son-là que je voulais. Et lui, qui habitait Dakar, qui est quand même un endroit assez humide, il voyait sa guitare se détériorer, cette Strat qui n'avait pas de peinture et qui avait le micro du milieu dévominé, qui était dans le manche, se creusait un peu avec l'humidité. Et il m'a donné sa guitare dans des sacs, des sacs monoprix, si tu veux, Franprix à l'époque. Et moi, je lui ai donné une Les Paul flambant neuve qui arrivait des US. Et, voilà. Mais après, je ne l'ai pas regretté, parce qu'arrivé à Paris, on m'a dit, ah, mais c'est quand même une bonne guitare.
Tu la possèdes toujours?
Bien sûr. Ça ne valait pas ce que ça vaut aujourd'hui en termes de prix, puisqu'aujourd'hui, une sérielle de 63, c'est quand même une belle guitare. À l'époque, on disait, bon, c'est une sérielle, on ne savait pas trop ce que c'était, mais c'était un peu plus cher, on va dire, qu'une Strat normale. Mais mis à part son prix, c'est une guitare qui m'a inspiré beaucoup de chansons. J'ai composé Cargo avec, j'ai composé Éteins la lumière et bien d'autres. Et surtout, je jouais sur scène avec, je l'ai emporté. Je la joue encore, des fois.
Voilà, c'est pas la guitare que tu avais cassée chez Drucker, on est bien d'accord.
Hein. Non.
J'en étais pas question. Rose Bonbon, tu côtoies des musiciens comme Fred Chichin, comme Jacques No, les Taxi Girls, enfin tous les groupes à la mode de l'époque. Je voulais savoir, c'était comment cette période de ta vie? À y repenser aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de l'amusement, de la nostalgie, de la tendresse, de l'excitation ou peut-être des regrets rétrospectifs, je ne sais pas?
des regrets, on peut regretter des choses. Enfin, des regrets, je pense pas vraiment. Un peu de nostalgie, oui, parce que c'était l'époque où c'était une époque heureuse pour moi, où j'étais en train de travailler déjà à ce concours des Beaux-Arts. Et puis après, c'est une époque où il y avait plein de musiciens aventureux. Ouais. Qui tentaient des nouvelles voies. On disait bon, ben on va enlever la distorsion, on va revenir à quelque chose avec le phasing. Avec... Il y avait cette histoire du son qui était important. Donc ça m'a beaucoup appris à l'époque. D'ailleurs, j'étais à Jussieu aussi et j'ai pris des cours avec Yannis Xenakis, qui est un grand maître qui a monté l'IRCAM avec d'autres. Et... Et donc, ça m'a ouvert sur la musique électronique, les séquenceurs. Donc, c'était vraiment une période créative. On sortait du punk et il y avait une reconstruction de la musique. Et dans ce milieu qui gravitait autour de lieux comme le Rose Bonbon ou le Gibus, on se retrouvait et puis on discutait avec passion de composition, de concept, de littérature. Moi, je lisais beaucoup l'Artegui, un truc un peu romantique avec la guerre, tout ça. On était très dans les trucs un peu japonais, seppuku et tout ça.
Avec une multiculturalité, on va dire, entre Yannis Xenakis ou même peut-être Pierre Boulez, hein, qui avait créé l'IRCAM, et puis tous ces artistes, on est quoi, au tout début des années 80, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et après, il y a eu Cargo. Je voulais savoir quel était le rôle de Philippe Missire et puis de son comparse Michel Elie de chez Mondio Music, le label distribué par Vogue, pour ce qui s'est passé avec ton 45 tours Cargo de nuit. Il est sorti fin 83. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ce fameux déclic?
Au départ, je n'étais que guitariste, donc j'accompagnais d'autres chanteurs et puis je participais à des disques, même à des enregistrements. Puis la composition m'a intéressé, j'ai commencé à me développer avec des petits moyens. J'avais un Porta Studio, c'est-à-dire un 4 pistes à cassette quand même, et je faisais mes maquettes là-dessus. Et un jour, je travaillais pour un chanteur dont la directrice artistique était Jacqueline Ehrenschmidt. C'était elle qui avait découvert Bachoum.
Ouais.
Femme importante dans le milieu, et je lui dis, est-ce que je peux vous faire écouter ce que je fais? Et elle écoute, elle me dit, c'est pas du tout pour passer Marconi, qui était IMA, c'était la grosse maison de disques, on va dire, c'est l'équivalent d'une major à l'époque. Elle me dit, c'est trop indé, mais va voir mon fils qui est sur un petit label, qui s'appelle Mondio Music, et Philippe Missire, donc le fils de Léo Missire, qui lui-même avait été directeur artistique et avait découvert Balavoine. Et donc je vais voir Philippe, qui me trouve que c'est intéressant, il me dit, t'as d'autres trucs, je reviens la semaine d'après, je lui présente d'autres trucs, et un lien se crée comme ça, jusqu'à ce que je lui amène la maquette de Cargo. Et Philippe travaillait avec Michel Elie, qui était dans ce petit label, et les deux me demandent si je veux un contrat, tout simplement. Et donc on a fait cet essai d'aller en studio, sans texte d'ailleurs.
Oui, je crois que le texte, il a été conçu après par Michel Elie lui-même et toi, hein, c'est ça?
Voilà, moi je n'étais pas auteur, et Michel non plus d'ailleurs. Et donc on part sur cette musique, et la musique semblait prendre forme en studio. Elle était déjà composée, mais les choses qu'on rajoutait nous enthousiasmaient de plus en plus. On était très dans une démarche très radicale, il n'y avait pas du tout de volonté d'en faire un hit, parce que d'abord le morceau était très compliqué, donc on pensait que de toute façon ça n'intéresserait que peu de monde, donc on était dans cette liberté totale. Puis à un moment on n'avait toujours pas de texte, et Michel, il y a eu un petit concours de circonstances, j'ai fait faire mes 3 jours et j'ai acheté une casquette, j'ai acheté des vêtements un peu comme ça, peut-être pas un pull rayé, mais en tout cas, je ressemblais un peu à un marin qui débarquait d'un bateau.
Oui.
Et lui, ce week-end-là, a été voir le film de Fassbinder, Querelle. Donc, quand on s'est retrouvé au studio le lundi matin, ça lui a fait une sorte de flash, un déclic, et du coup, il est parti sur l'écriture de scénaristique de ce marin qui débarque du cargo et qui en a marre et qui veut juste aller s'aérer la tête. Mario, et voilà.
Et par la suite, mais plus tard, après la sortie du 45 Tours, il y a eu le clip en noir et blanc de Jean-Baptiste Bondino. Il a été le premier clip français à être diffusé sur MTV à l'époque. On faisait pas de clip hein, en France, on est bien d'accord. Tout ça, ça fait qu'avec les muscles, les maillots de corps, ça fait que la communauté gay s'en empare de ce site Cargo de nuit. Quel est ton regard aujourd'hui là-dessus ?
Concernant le clip et la communauté gay, il est vrai que le disque était quasiment double disque d'or quand on a convaincu Léon Cabat, qui était le patron de Vogue à l'époque, de faire un clip vidéo. Il savait pas trop ce que c'était, mais parce qu'il y avait pas d'émission pour passer les clips. Mais nous, pour nous, c'était Cargo était une œuvre comme avec ce texte à plusieurs personnages, parce qu'il y a les putes. Il y a les marins, il y a un ensemble dans Cargo, il y a ce quai, c'est un texte cinématographique.
Mais oui.
Et donc, on voulait l'illustrer par un vrai film, et ce qu'on a fait avec Jean-Baptiste Mondino. Moi, j'étais très fier d'être porté par la communauté gay à l'époque, et dès le début d'ailleurs, c'est eux qui ont été les précurseurs et les lanceurs, on va dire, de Cargo. Mais pas forcément pas que sur le look ou l'aspect visuel, parce qu'ils étaient un peu plus vraiment à la pointe de la création. Il y avait plein de gens qui me soutenaient, et c'était vraiment très difficile aussi. C'était une période difficile pour les gays de dire qu'ils étaient gays. Il y avait beaucoup. Moi, j'ai connu des amis qui se faisaient casser la gueule parce qu'ils étaient gays. Les gays étaient stigmatisés. C'était très pénible et difficile. Donc Cargo a aidé. Moi, j'étais très belles lettres de gens qui m'ont écrit en disant « Vous m'avez aidé à faire mon coming out, en fait. » Et donc, ça paraissait très important à l'époque. Donc, je suis très heureux que Cargo ait pu avoir ce rôle-là aussi.
Par la suite, il y a le chanteur des Who, Roger Daltré, qui reprend ton titre sous le nom de « Take Me Home ». Alors, on peut le prendre comment de la part de Daltré ? Est-ce que c'était, selon toi, de sa part, le fait de vouloir surfer sur une vague de succès ou la volonté de vouloir se renouveler lui-même ? Ou alors un remerciement pour lui avoir donné une guitare alors qu'il était en train de râler qu'on lui avait piqué la sienne ? Il y a une anecdote à propos de ça.
Oui, l'anecdote après la rencontre, je lui ai prêté ma guitare, c'est la Strat dont on parlait, et il a été faire un playback quand même. Je pense que je suis chanté peut-être pas en playback, mais en tout cas, c'était pour l'image, et donc... Il a écouté Cargo ce soir-là et il a aimé. Et puis 3 ans après, il l'a repris. Ce qui était émouvant, on va dire, pour moi, c'était qu'en regardant Roger Daltré, je me revoyais plus de 10 ans avant au concert des Who en 74. Et je me disais, c'est le type que j'ai vu sur scène, tout en me disant un jour, je serai à cette place. Et c'est ce type-là qui venait me voir en me disant, j'aime bien ta chanson, je vais la reprendre. J'avais l'impression d'être adoubé comme un jeune chevalier qui met un genou à terre avec ses pères qui touchent délicatement les épaules avec un sabre ou avec une épée comme ça pour dire voilà, tu fais partie du club. C'est comme ça que j'ai senti la chose. Et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré sur moi-même, sur mes capacités. Donc ça, c'est toujours agréable.
Axel Bauer, c'est vrai que la bataille des chiffres, d'une source à l'autre, on va trouver des choses différentes. Mais 3 millions de disques vendus au total. Quand tu te dis ça en 2024, j'imagine que tu penses aussi aux artistes actuels dont la valeur étalon est devenue en fait le nombre de vues. Je voulais savoir quel est ton regard sur l'évolution de la consommation de la musique de nos jours.
Disons qu'aujourd'hui, on est comme un entonnoir qui serait posé sur la table. Avant, c'était un entonnoir inversé, c'est-à-dire que il fallait tout faire pour séduire un directeur artistique, finalement, pour avoir la possibilité d'enregistrer un disque et puis après de le faire écouter au plus grand nombre. Aujourd'hui, avec les outils, on part directement du fait de pouvoir faire écouter au plus grand nombre, mais c'est difficile de réussir. Donc l'entonnoir est inversé. Enfin, il est au bon endroit.
En tout cas, il y a eu une sacrée évolution. On va parler de la suite de ta carrière, bien sûr, avec par exemple le titre Fantasme et puis tes autres albums, Les Nouveaux Seigneurs en 87, Sentinelle en 90, qui sont pour la plupart inspirés de tes voyages. Il y a eu le désert du Sahara. Pourquoi ce voyage à l'époque ? C'était l'introspection, la recherche d'un autre toi-même ? Ça va rejoindre aussi peut-être le titre des Who que tu as choisi.
Ce qu'il y a, c'est qu'après Cargo, je suis parti m'installer en Angleterre. J'ai été signé par EMI Londres pour un contrat parce que j'ai intéressé les Anglais. Donc, je suis parti m'installer en Angleterre d'abord. Ensuite, j'ai passé 3 ans et demi, j'ai fait un premier album, Les Nouveaux Seigneurs, là-bas, qui n'a pas trop marché. Et arrivé un peu tard après Cargo, et après Cargo, c'était difficile de savoir ce qui aurait plu au public, en fait. Et donc, j'ai fait cet album, et je suis très fier de cet album qui a été fait avec Dave Bascombe de Tears for Fears, avec des grands noms, Mark Stent aux commandes du son, etc. Et c'était vraiment une période intéressante où j'ai rencontré beaucoup de groupes, de stars anglaises et ça m'a appris beaucoup à travailler notamment en studio et c'est toujours fascinant d'être en Angleterre. Ensuite, je suis revenu en France et je suis revenu m'installer en France parce que j'avais la nostalgie en fait de mon pays et pour être franc aussi, j'avais envie de manger un bon steak frites quand je voulais.
Oui.
Ce n'était pas facile en Angleterre. Et je m'interrogeais, j'ai re-signé avec Mercury en France, avec Polygram qui est devenu Universal. Et là, j'ai sorti un album, un deuxième album, avec un titre qui s'appelle « Éteins la lumière » que tout le monde connaît.
Mmh.
Commencer ma première tournée où je revenais un peu à mes sources, c'est-à-dire à faire des covers d'Hendrix, à m'éclater sur scène, des covers des Doors, et je tournais en trio avec 2 super musiciens à ce moment-là, et j'ai fait une tournée d'à peu près 170 dates, qui était super, où on a joué en première partie de Bryan Adams à Bercy, en première partie de Joe Cocker dans les arènes de Vienne. On a fait plein de super trucs à ce moment-là. Et je me suis retrouvé un peu dans un désir d'aller à la campagne et puis de me retrouver, de me ressourcer. Je venais aussi d'avoir un enfant, ça me questionnait. Et ça me questionnait sur le monde et sur mon rapport aux choses. J'ai fait une sorte de break à ce moment-là et je me suis dit, bon, quel est le sens de la vie, en fait?
Ouais.
Voilà, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Et je regardais... cette espèce de vie bizarre que j'avais eue depuis 10 ans avec Cargo, avec le succès, avec aussi cette descente finalement, parce qu'après Cargo, je surfais sur cette vague et je me disais, je me demandais vraiment, est-ce que la vie est une course en avant effrénée pour essayer d'avoir de l'argent, du pouvoir, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à la vie que ça, parce que j'étais quand même beaucoup entouré de gens comme ça qui me considèrent comme une marchandise, un artiste qui doit rapporter, etc. Donc j'essaie de me comprendre un peu mieux, et un jour comme ça, sur un coup de tête avec mon bassiste, on est parti dans le Sahara. Et on est parti dans le Sahara parce que j'avais lu sur les Touaregs, et les Touaregs m'attiraient dans le sens que justement ça avait l'air d'être des gens qui étaient comme des sages un peu du désert qui vivaient dans cet endroit assez hostile et en même temps magnifique que je ne connaissais pas et qui avait à l'époque en tout cas cette espèce de philosophie de vie qui les rendait beaux, heureux donc j'ai eu envie de les rencontrer. Alors je suis parti avec une petite guitare avec mon copain Laurent, on est parti comme ça, on a pris un avion, on a été à Djanet qui est en plein milieu du Sahara près de Tamanrasset. Et là, j'ai rencontré un Touareg, j'avais ma guitare. C'est plus facile quand on sait jouer un peu de la musique. On est parti le soir en plein désert, comme ça. On a joué sous les étoiles en buvant du thé, c'était formidable. Et je lui ai dit, mon rêve, ça serait d'habiter avec les Touaregs pendant un moment. Il m'a dit, bah écoute, je vais voir une famille Touareg qui est à une centaine de kilomètres là. Je vais te laisser là pendant 10 jours.
Et donc, est-ce que tu penses que là, on est à l'époque où tu as une toute petite trentaine d'années. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose qui t'a servi depuis cette expérience?
Bien sûr, puisque c'est une expérience spirituellement transformatrice quand tu te retrouves dans le dénuement avec des gens qui savent vivre comme ça. Ça donne une sorte de relativité à tous les désirs qu'on peut avoir. D'avoir le dernier téléphone portable ou la dernière guitare à la mode, d'avoir une super voiture ou un super le monde matériel si tu veux. Donc j'étais immergé comme ça pendant longtemps avec dans l'essentiel, dans une vie plus essentielle. Et c'est ce que j'étais venu chercher là-bas, c'est comment je me comporterais dans un univers plus difficile. On habitait quand même sous un arbre, même si on avait un petit sac de couchage par terre, on dormait à la belle étoile. Pour te expliquer, Sylvain Tesson fait ça très bien quand il est parti, en Sibérie pour habiter comme ça pendant un temps, s'extraire du monde. Cette extraction du monde m'a fait du bien et m'a fait comprendre des choses plus essentielles que la course effrénée matérielle ou la course qu'on a dans nos vies modernes.
Axel Bauer, j'avais d'autres questions à te poser par rapport à toute la période qui s'est écoulée, mais on va peut-être s'en tenir à ce qui s'est passé il y a moins de 10 ans. Je voulais qu'on évoque ensemble quand même l'année 2015. Tu fais partie de la tournée de 22 dates autour de la guitare sous la houlette de Jean-Félix Lalanne, avec à côté de toi des grandes stars de la guitare comme Robin Ford, Larry Carlton, Norbert Krief de Trust, Paul Persson, Nalar Braz, Michael Jones et Ron Tal des Guns N' Roses notamment. Je voulais savoir, nous on t'avait vu en tout début de tournée, hein, c'était le 9 octobre 2015 au Zénith de Caen. C'est la ville la plus réputée Caen hein, pour la froideur de son public. C'est d'ailleurs dans notre ville qu'on entend commencer les tournées d'Eddie Mitchell pour cette raison-là. Et il disait, si les gens aiment, tous les autres vont aimer par rapport à ça. Je voulais savoir, d'avoir participé à cette aventure autour de la guitare, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là?
Ça fait partie des super chouettes expériences de se retrouver avec des camarades guitaristes, guitar-héros pour certains, et de jouer avec eux. Il y avait aussi Michael Jones, il y avait aussi Paul Persson. Puis se retrouver avec Larry Carlton sur scène. Fan de Larry Carlton, qui m'a beaucoup appris à l'écoute de ses disques, j'apprenais beaucoup. Robin Ford aussi d'ailleurs. Et donc se retrouver sur scène avec eux et de jouer, puisque Larry et Robin jouaient Cargo avec moi sur scène et je jouais Éteins la lumière avec Ron Tal. Donc Ron est plus contemporain, on va dire, et puis est plus rock'n'roll. Mais la pensée harmonique, je dirais, de Robin et de Larry m'a fait retravailler, en réalité, quand je suis descendu du camion de cette tournée. Je me suis retourné dans ma vie et j'ai demandé à Jean-Michel Cagedan de me donner des cours, qui est un grand guitariste aussi, de me donner des cours pendant un an d'harmonie, parce que je pense j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais des lacunes et que je voulais retravailler ça.
La Blue Note, en fait, c'est ça, quelque part. Larry Carlton, Robin Ford, c'est la façon jazz d'aborder le blues ou le rock.
Ça, la façon jazz, je l'avais quelque part, puisque j'ai écouté quasiment que ça jusqu'à 10 ans, donc je l'avais dans l'oreille, si tu veux. Après, quand on parle déjà avec Robin, et puis quand il a fait des vidéos très bien didacticielles, vous explique les passages d'accords dans le blues, les demi-diminués, la gamme altérée, etc. Bon, je l'avais pas formulé comme ça, donc je le comprenais pas comme ça. Mais à leur contact, et puis en discutant avec eux, ils me l'ont expliqué. Donc ça m'a donné envie de retravailler ça.
Et puis après, on arrive en 2022, et on t'écoute avec quelques solos de guitare aérien extraits de l'album Radio Londres. Ici, dans le titre, c'est malin. Axel Bauer ici avec la chanson Le jour se lève, toujours extraite de Radio Londres avec un excellent solo final. Et tu sors ici Londres, en hommage à ton père qui était la voix de la France, on va le rappeler, sur Radio Londres. Les Français parlent au français, tout le monde connaît ça. Mm-hmm. Ton père est décédé en 2018 alors qu'il allait atteindre l'âge de 100 ans.
C'était Jean Berlet, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann. Voilà.
Les Français parlent aux Français.
Les gorilles, bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour faire de l'ombre. Ici Radio Londres, à d'autres temps on était plus résistants.
Moi, je trouve que sur cette chanson, elle est assez ensoleillée, elle est acoustique, elle est apaisée. Elle évoque un peu l'univers musical de Gérard Manset. Même s'il y a un solo électrique, bien sûr, mais ça coule de source, c'est en rien agressif. C'est vraiment cet univers-là que je retrouve.
Ah, je connais Gérard, j'ai même fait un duo avec lui sur un de ses albums. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai été en contact, il m'avait fait un texte d'ailleurs sur l'album précédent. C'est un de nos grands auteurs. Mais je ne reconnais pas en lui une influence vocale ni composition. Je pense que Ici Londres a été une chanson simple. D'abord, elle est effectivement en hommage à mon père, mais surtout en hommage à Radio Londres et à ses speakers. Mon père en faisait partie. Il a dit la phrase « Les Français parlent au français », je crois, 517 fois. Donc c'était un des speakers importants. Mais c'était plutôt... cette chanson est plus un questionnement. En réalité, en d'autres temps, on était plus résistants. C'est la phrase de Boris Bergman qui a écrit le texte.
C'est ça, c'est Boris Bergman qui a écrit. Et cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle a comme résonance par rapport à toi ? Est-ce que c'est quelque chose de politique à propos de ce qui se passe en ce moment ? On ne va pas forcément détailler ni politiser le débat, mais les résistants qui seraient peut-être taxés de complotisme aujourd'hui ou de désinformation ou de fake news, non ?
La chanson est sortie juste avant l'entrée en guerre de la Russie avec l'Ukraine.
Ouais.
J'appelle ça une entrée en guerre parce que Poutine appelle ça une opération de terrain, ou je sais pas. Mais donc effectivement, elle a pris à ce moment-là une résonance avec l'actualité qu'elle n'avait pas 2 mois avant. C'était une chanson hommage qui d'un coup nous questionnait sur la possibilité d'une guerre. Comment est-ce que nous on se comporterait ? En d'autres temps, on était plus résistants. Je pense pas que c'est une affirmation dans la chanson. C'est plus une question en fait qu'on peut se poser.
D'accord.
Il est vrai que les gens comme père et bien d'autres, et des femmes aussi. On a eu des gens qui se sont comportés dans ces périodes difficiles de façon très exemplaire et puis qui ont risqué leur vie pour la liberté. Et c'était important pour moi, vu que je suis le fils d'un de ces résistants, de mettre un peu la lumière. Voilà, c'est rendre à César ce qui appartient à César aussi. C'est honorer mon nom et sa mémoire. J'ai des gens formidables dans ma famille, ma grand-mère qui était aussi elle une résistante, et donc j'avais envie de leur rendre hommage. Et je suis content que cette chanson d'ailleurs ait rencontré l'âme sensible de plein de gens aussi qui ont eu des résistants dans leur famille et ou des gens qui ont vécu cette période-là et qui en ont gardé un peu la mémoire. Et je pense que c'est à travers cette mémoire aussi ravivée que par moments on évite de faire des erreurs.
Ben oui, par exemple, qui oublie son passé se condamne à le revivre. Hein. Ça, c'est une phrase qui revient sans cesse, mais elle était toujours d'actualité.
Juste pour terminer là-dessus, puisque tu as dit que c'était une chanson hommage à mon père, ce n'est pas une chanson hommage à mon père, parce que c'est une chanson hommage, si tu veux, au résistant qu'il a été. Mais si j'avais voulu faire une chanson hommage à mon père, j'aurais fait une chanson hommage à l'homme drôle et bricoleur qu'il était, ou à son imagination. C'est pas un hommage personnel. C'est un hommage, c'est une chanson de résistance sur la résistance.
Oui, avec la connotation historique qu'on vient d'évoquer. On en arrive maintenant, Axel, à ton choix musical. On évoquait tout à l'heure le double album Quadrophenia des Who, qui semble être en fait ton groupe de mise à l'étrier de la musique vraiment fétiche. Les Who qui jouent toujours, hein, il y a moins d'un an, ils ont donné un concert à Paris, d'ailleurs tu y étais ?
Oui, j'y étais celui-là,
ouais.
L'Accord Arena de la Défense, oui, j'y étais.
Et alors voilà, ce titre The Real Me, parce que c'est quand même compliqué de choisir parmi une discographie pléthorique, ça fait plus de 50 ans que les Who enregistrent, tu évoquais l'album Tommy aussi, qui a vraiment une connotation particulière dans leur discographie.
If your child ain't all he should be now, this girl can put him right. I'll show him what he could be now, just give me.
Et où tu as choisi The Real Me, peut-être par rapport aux paroles, est-ce que ça, y a quelque chose qui résonne dans ces paroles par rapport à ta propre vie, à ton propre parcours ?
Ce que j'ai voulu montrer à travers cette chanson, c'est à la fois le côté sauvage des Who, bien sûr, le côté rock, et puis tu m'as demandé une chanson qui était une chanson constructrice, en fait, qui m'a construite au début, donc c'est vraiment mon entrée dans le rock, elle s'est faite par là. Et ce qui est intéressant, c'est le titre, The Real Me, le vrai moi, donc
ouais.
Cette chanson-là, c'était aussi les textes des Who, comme je te l'ai dit, qui m'inspiraient, pour l'ado que j'étais, c'était qui je suis, voilà, qui je suis avec ce morceau. C'est le questionnement de Pete Townshend et le questionnement de Roger Daltrey dans lequel j'étais emporté.
Les fissures entre les pavés comme des rivières de veines qui coulent, des gens étranges qui me connaissent, qui regardent derrière chaque vitre. La fille que j'aimais vit dans cette maison jaune. Hier, elle est passée devant moi, elle ne veut plus me reconnaître maintenant. Pouvez-vous voir le vrai moi ? Est-ce que vous pouvez ? On est en pleine crise identitaire, là, finalement, avec Roger Daltrey dans ce titre The Real Me.
Je dirais pas que c'est une crise, je dirais que c'est une quête identitaire, comme on l'a tous, en fait, et les Who ont commencé avec ça, beaucoup avec My Generation, en se distanciant de l'après-guerre, de leur après-guerre, hein, qui était dure en Angleterre. C'était quand même c'est une période où les gens n'avaient pas d'argent, où on vivait dans un monde qui se reconstruit, qui a été bombardé, des rues entières qui avaient disparu, les gens mangeaient des rats ou je ne sais quoi. Donc Pete Townshend est né dans ce monde-là, et tout d'un coup, il vit les années 60 avec tout ce que ça a, les hippies qui arrivent, toute la quête identitaire qui va arriver. Donc, c'est un homme de son époque.
Mmh. Axel Bauer, on en arrive à la fin de cet entretien. Merci déjà pour toutes ces réponses fort éclairantes, que ce soit par rapport à ton propre parcours ou au Who qu'on va écouter tout à l'heure avec l'extrait de Quadrophenia, The Real Me. Et puis, la toute dernière question, bien sûr, elle est pour toi. Tes projets, nous sommes en mars 2024. Quels sont tes projets pour les mois à venir ?
Suite au succès de Radio Londres, qui était le dernier album sorti en 2020. J'ai fait une tournée d'à peu près une centaine de dates qui s'est terminée récemment à l'Olympia et je suis donc reparti sur un nouvel album, sur de la composition, l'écriture et voilà. Ce sont mes projets actuels, enfin c'est pas des projets d'ailleurs, c'est mon actualité.
C'est l'actualité, donc un nouvel album qui va sortir peut-être avant la fin de l'année, je ne sais pas.
C'est difficile de dire qu'il sortira avant la fin de l'année, peut-être que quelque chose sortira, un single, un EP, mais un album, je pense que ça ira un peu trop vite, peut-être ce sera plutôt 2025.
Très bien, Axel Bauer, merci beaucoup d'avoir participé à ce My Rockers, on va écouter les Who, et puis bien sûr, bon vent à toi, bon vent à ta carrière qui se poursuit sous de bons auspices. Merci pour tout ça.
Ok, merci à toi.
À bientôt, merci.
À bientôt, salut.
Time!
Merci Axel Bauer pour ce 44e numéro de My Rockers. On a écouté The Real Me par The Who sur l'album Quadrophénia, intervenu en 1973. Et puis on a eu pas mal d'extraits musicaux avec notamment Axel Bauer ici Londres, Oscar Peterson, Hymn to Freedom, The Who Won't Get Full Again, Johnny Winter avec Bonnie Moroney, The Jimi Hendrix Experience If Six Was Nine, AC/DC avec Shoot to Thrill, Led Zeppelin Black Dog, Yanis Xenakis avec un extrait de la légendaire, Cargo bien sûr de Axel Bauer, Roger Daltrey, Take Me Home, Éteins la Lumière par Axel Bauer, Sleepwalk par Larry Carlton, Robin Fern on the Blue Line pour Live Song One for Annie, C'est Malin par Axel Bauer, et puis Le Jour se lève en entier, cette fois-ci extrait de Radio Londres en 2022, et puis The Acid Queen de The Who sur Tommy en 1969. C'est la fin de cette première heure de Sweet Home Chicago, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième avec Kid Colling en invité.
A cold-blooded killer. She's coming for revenge today.